Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition d'Escale consacrée cette semaine à la protection des journalistes, notamment lors des conflits. Nous nous rendrons au siège de l'ONU à New York pour faire le point sur la mise en œuvre de la résolution 1738, adoptée en fin 2006. Nous reviendrons sur l'événement spécial organisé à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, intitulée « Protéger les journalistes, bilan et perspectives, 5 ans après la résolution 1738 ». Porte-parole du gouvernement français, journaliste détenu, fonctionnaire onusien, autant d'intervenants et d'interlocuteurs qui nous aideront à réfléchir à l'importance de protéger les journalistes. Bonne écoute.
Les forces pro-Kadhafi poursuivent leur avancée et sont maintenant...
As we all run for cover.
Reporters, photographes, caméramans, les journalistes dans les conflits armés jouent un rôle essentiel. Non seulement ils informent les populations et la communauté internationale de ce qui se passe sur le terrain, dans des régions souvent difficiles d'accès, mais ils vont jusqu'à aider à l'établissement des violations graves des droits de l'homme. Un travail qui plus est dangereux, car outre les risques inhérents à un conflit, ils peuvent être ciblés par les parties au conflit qui souhaiteraient se défaire de ces témoins gênants. Ainsi, depuis l'adoption de la résolution 1738, il y a 5 ans, quelques 500 journalistes ont été tués pour avoir tenté d'exercer leur métier. Il y a lieu alors de se poser la question : à quoi sert la résolution 1738 ? Premiers éléments de réponse avec Romain Nadal, intervenant lors de l'événement et porte-parole du Quai d'Orsay.
Ce que l'on constate 5 ans après l'adoption de cette résolution, c'est qu'il y a encore beaucoup de journalistes qui meurent au service de la liberté de l'information. On a vu l'année dernière que les révolutions arabes étaient porteuses d'espoir pour l'ensemble de la communauté internationale. Des peuples ont repris leur destin en main. Mais ces révolutions arabes se sont aussi traduites par la mort de nombreux journalistes qui ont couvert ces événements, qui en ont été les témoins pour l'ensemble de l'opinion publique internationale. Et ça n'est pas normal. Le fait que des dizaines et des dizaines de journalistes soient encore tués chaque année pour couvrir des conflits, pour couvrir des manifestations, pour couvrir des événements qui ébranlent le monde, qui ébranlent l'actualité internationale, ça n'est pas normal. Il faut donc continuer à se battre pour que cette résolution soit mieux appliquée, pour que les journalistes soient mieux protégés et qu'on ne puisse pas aujourd'hui mourir pour témoigner.
Alors voilà, justement, au-delà du rappel, qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette résolution ait plus d'impact ?
Alors, des idées ont été avancées. Par exemple, le fait de systématiquement mentionner la résolution 1738 dans toutes les autres résolutions du Conseil de sécurité qui touchent au maintien de la paix. Je vous rappelle que la résolution sur la Libye, la 1973, l'année dernière, mentionnait expressément la liberté de communication, la liberté de la presse et la protection des journalistes. Donc, systématiquement évoquer cette résolution pour qu'elle soit mieux connue et que les États soient davantage appelés à la respecter. Mais il y a aussi d'autres pistes qui ont été explorées, la formation des journalistes, la sensibilisation des différents médias à l'existence de cette résolution pour qu'elle soit mieux connue, la mobilisation des organisations régionales, je pense à l'Organisation des États américains, l'Union africaine, toutes les organisations régionales, l'ASEAN, pour que sur l'ensemble des continents, là aussi, cette résolution soit mieux connue et que les journalistes soient protégés. Il faut sanctuariser les journalistes, sanctuariser les médias qui ne font que leur travail et rappeler que l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme consacre la liberté d'information comme l'un des droits universels de l'homme, du citoyen.
Mais comment exercer une pression ou faire en sorte que les États tiennent compte de la résolution et respectent la vie des journalistes et leur travail ?
Eh bien, tout simplement, en accroissant aussi la responsabilité de ceux qui sont à l'origine de l'assassinat ou de violences contre les journalistes, en les identifiant et en les jugeant. C'est à la fois un devoir pour la personne qui a été assassinée, pour ses proches, pour sa famille, mais c'est aussi une nécessité pour le respect de la liberté de la presse, pour montrer que c'est une liberté absolument sacrée, extrêmement importante, un principe fondamental. Et nous le disons aujourd'hui, par exemple, en Syrie, les auteurs des crimes qui sont commis en Syrie, notamment contre la presse, puisque vous savez que des journalistes sont ciblés délibérément en Syrie, les auteurs de ces crimes seront jugés, nous l'avons dit à plusieurs reprises, nous, France, comme membre permanent du Conseil de sécurité, et nous militons dans toutes les enceintes internationales pour que les crimes qui sont commis en Syrie ne restent pas impunis. à chaque fois que des journalistes sont assassinés, on ne peut pas laisser ces crimes impunis. Alors c'est pas simple, c'est évidemment très difficile, mais il y a un plan d'action qui a été proposé par l'UNESCO dans ce domaine et que nous allons essayer, nous, tous les membres de la communauté internationale, de faire davantage appliquer et de continuer à travailler. Aujourd'hui, c'est une journée du souvenir, de la réflexion, mais tous les jours, nous devons agir pour défendre la liberté de la presse.
Même si la question de la protection des journalistes jouit à présent de plus de visibilité, elle exige une vigilance constante et un travail de longue haleine. En fait, elle reste un défi permanent. André Neto était un des panélistes à l'événement. Il est journaliste au quotidien brésilien au Estado de São Paulo. Il a été capturé lors du conflit en Libye, puis relâché. Il témoigne.
J'ai arrivé au pays au tout début du conflit armé, lorsque Benghazi a été déjà sous le contrôle de rebelles. Et nous avions à cette époque-là l'information que l'ouest du pays tombait aussi dans les mains de rebelles. Et donc nous pensions à cette époque-là qu'il était très important d'entrer dans les pays, même si on n'avait pas l'autorisation légale, c'est-à-dire le visa, une invitation du régime, pour entrer en contact avec le rebelle et prouver d'une certaine façon que la révolution était une révolution nationale et pas une révolution de certaines tribus contre le régime, comme Kadhafi affirmait jusque-là.
Donc vous êtes rentré sans avoir l'autorisation et vous avez fini par être détenu. Vous étiez gardé sous quelles conditions ?
J'étais arrêté dans une cellule toute seule. C'était quand même une installation militaire qui serait peut-être la cible de bombardement de l'OTAN. Donc il y avait une tension très spéciale dans ces sujets aussi. On n'a pas été torturé. Moi, je suis sorti comme je suis arrivé. La plus importante torture, à mon avis, c'était psychologique. Et ça, on ne peut pas nier. Ça existait. C'était ces menaces permanentes d'exécution. Et ça pesait. Oui, c'est exprès, bien sûr.
Alors, comment est-ce que ça a affecté votre vocation vers le journalisme ?
Mais en fait, dès que j'étais en prison, déjà, je réfléchissais beaucoup à propos de ces sujets. Mais je n'avais pas de doute que nous avions pris la bonne décision d'entrer dans les pays, de révéler au monde ce qui s'est passé à l'intérieur du pays. Et donc, je peux vous garantir que ça n'a pas changé mon avis à propos de la prise de risque, par exemple, de journalistes dans la couverture de conflits armés. Pourquoi ? Parce que dans ces genres de conflits, notamment dans des révolutions contre des gouvernements, contre des dictatures qui sont des dictatures sanguinaires comme celle de Kadhafi, la population civile est quand même très menacée. Elle est à merci de ce genre de dictature, de régime. Et donc la presse a quand même une voix à porter, la voix du peuple, la voix de la population civile qui est menacée par ces régimes.
La contestation populaire prend de l'ampleur en Libye. C'est ce que montrent des dizaines de vidéos postées par des manifestants sur le site internet YouTube.
Libya's crisis has seen the emergence of a host of new and distinct voices in the country.
Je t'ai invité à cette conférence pour parler de mon expérience en Libye, mais je pensais que peut-être je pourrais élargir un peu mon sujet pour parler aussi des journalistes qui sont dans leur pays, qui travaillent quotidiennement avec une prise de risque dans certains pays, comme j'ai mentionné notamment l'exemple du Brésil, mon pays, où 11 journalistes ont péri l'année passée, les 12 derniers mois. Et donc mon message, c'était, bon, il y a bien sûr une énorme prise de risque dans la couverture de conflits. Il faut qu'on réfléchisse beaucoup à propos de comment aider ces journalistes à améliorer leur sécurité, mais il faut aussi et peut-être surtout améliorer le niveau de sécurité et le combat à l'impunité de pays démocratiques, mais qui font face à de cas de violence extrêmes contre les journalistes. Et je cite notamment l'exemple du Mexique et du Brésil, qui sont deux pays démocratiques, où l'impunité à l'égard de tueurs de journalistes est énorme. Et enfin, c'est un sujet qui me préoccupe notamment.
Mais est-ce que vous pensez que c'est réaliste d'avoir une résolution qui cherche à protéger les journalistes dans les conflits ?
C'est vrai que c'est un peu quichotesque, si on peut dire, un peu romantique d'imaginer qu'une résolution de l'ONU va tout régler. Mais il faut qu'il y ait ce genre de résolution parce que ça crée un minimum de respect à la loi qu'on doit observer. Mais j'aimerais bien aussi garder un mot pour les Nations Unies parce que je pense que l'organisation a un rôle à jouer dans le sens de faire la pression sur certaines démocraties pour qu'elles enquêtent, pour qu'elles aient un peu plus d'attention en ce qui concerne la montée de l'impunité à propos de la violence contre les journalistes. C'est un sujet essentiel à mon avis.
Vous avez une vision de comment l'ONU pourrait justement faire pression sur les pays membres et les démocraties?
On pourrait mettre la pression sur certaines démocraties qui ont un poids très important dans l'organisation. Il faut parler. L'organisation ne peut pas baisser les bras et dire « je n'ai rien à voir à propos de l'impunité dans certains pays ». Non. L'ONU, ainsi que la presse étrangère, ainsi que les organisations non gouvernementales, on est tous impliqués par l'impunité dans certains pays. Il faut qu'on parle, il faut qu'on mette la pression sur ces pays pour que ça s'arrête. C'est insupportable.
Le cri d'André Netto semble résonner tel un écho dans le plan d'action de l'UNESCO sur la sécurité des journalistes. Un plan qui cherche à préserver leur vie, tant dans les contextes quotidiens comme dans les conflits armés ou face aux crimes organisés, comme l'explique Philippe Kridelka, directeur du bureau de l'UNESCO à New York.
Le plan d'action a été unanimement adopté par le système onusien. C'est donc un plan interagence qui a trois objectifs principaux. Continuer à sensibiliser les opinions publiques avec davantage de force. Donc sur la base du travail de l'UNESCO, nous voudrions que partout dans le système onusien, les agences puissent faire savoir que des journalistes perdent la vie. Nous voudrions développer les actions existantes. Et puis, il y a également la question du suivi et du développement de la coordination entre tous les acteurs.
Alors justement, est-ce que vous pouvez rentrer un peu plus en détail sur ces pistes d'action? En quoi consiste ce plan de protection et de sécurité des journalistes?
Voilà, donc il s'agit essentiellement de développer les actions existantes et d'essayer de trouver de nouvelles initiatives. Il y a un instrument juridique extrêmement important qui est la résolution 1738 qui a été adoptée par le Conseil de sécurité en 2006 sur la sécurité des journalistes dans les conflits armés. Mais la résolution du Conseil de sécurité ne porte que sur les conflits armés, mais c'est un instrument extrêmement important parce que le Conseil de sécurité, évidemment, apporte avec lui tout un arsenal de pressions politiques ou de pressions juridiques qui peuvent vraiment faire changer les choses. On peut imaginer qu'un jour, des sanctions puissent être décidées par le Conseil de sécurité pour ceux qui s'attaquent aux journalistes pendant les conflits armés. On pourrait également imaginer qu'un jour, des corridors médiatiques soient mis en place, protégés par les casques bleus, pour permettre une circulation plus sécurisée des journalistes sur les théâtres de conflits. Donc voilà deux exemples où notre plan d'action onusien, par le fait qu'il permet aux différents acteurs onusiens de se coordonner davantage, permettrait d'augmenter un peu la pression pour que davantage d'actions concrètes soient prises pour mettre en œuvre cette résolution importante.
Est-ce que ce plan onusien concerne que les journalistes dans les conflits ou il va au-delà de la résolution 1738?
Alors, il va au-delà de la résolution. La résolution ne concerne que les journalistes dans les conflits. Le plan d'action onusien concerne toutes les violences faites aux journalistes, concerne la sécurité des journalistes pendant les conflits armés et en dehors des conflits armés.
Alors, pour approfondir aussi sur la 1738, pourquoi est-ce que l'UNESCO et les agences onusiennes ont trouvé important, justement, 5 ans après la mise en œuvre de cette résolution, d'approfondir, de concrétiser, pourquoi aller plus loin?
Parce que nous constatons que sur le terrain, la situation se dégrade. Il y a de plus en plus de journalistes qui perdent la vie dans de plus en plus de pays. Il y a une prise de conscience au sein du système onusien. C'est pour cela que l'UNESCO a lancé ce plan d'action. Et ce plan d'action, encore une fois, doit nous permettre d'avancer. Nous espérons également que ce plan d'action onusien va, parce qu'on va davantage parler de la problématique, pourrait peut-être déboucher sur une initiative de la part de quelques États membres pour lancer la négociation d'un instrument juridique.
Alors, à quel impact peut-on véritablement s'attendre d'une telle stratégie?
Ah bien, davantage de coupables punis. Le fait que ça doit davantage se savoir, y compris ici à l'ONU, y compris au Conseil de sécurité, le fait qu'il y a de plus en plus de journalistes qui sont tués, que c'est inacceptable, que notre monde doit réagir parce que la liberté de la presse est en jeu. Des politiques de développement qui attachent une place accrue à l'avenir, à la protection des journalistes. Et puis, ce travail de sensibilisation de l'opinion publique que joue l'UNESCO, que Mme Bokova, attaque après attaque contre des journalistes, joue en condamnant, en parlant. Si elle peut le faire avec l'ensemble de ses collègues du système onusien et main dans la main avec le secrétaire général, ça me paraît également des actes importants susceptibles d'améliorer la situation.
Et c'est ainsi que se referme cette édition d'Escale consacrée cette semaine au bilan, 5 ans après, de la résolution 1738 du Conseil de sécurité sur la protection des journalistes. Escale, le magazine hebdomadaire de la radio francophone des Nations Unies, vous a été présenté cette semaine par Christina Silvero avec l'appui de Frédéric Choignard. Je vous rappelle que vous pouvez écouter le magazine, mais aussi le journal de la Radio des Nations Unies sur Internet en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.